Chapitre 8. Question. Ce que je trouve fascinant quand je te parle, c'est que tu me laisses toujours plus de questions que de réponses. À présent, j'ai autant de questions sur la politique que sur le sexe. Réponse. Certains disent que c'est la même chose, que s'occuper de politique, c'est se faire 3 petits points de suspension. Question. Minute. Tu ne vas tout de même pas proférer une obscénité, non? Réponse. Eh bien oui. Je me suis dit que j'allais te scandaliser un peu. Question. Eh, arrête, hein, Dieu n'est pas censé parler comme ça. Réponse. Alors pourquoi le fais-tu, toi? Question. Bah, la plupart d'entre nous ne le faisons pas. Réponse. Mon œil. Question. Les gens qui craignent Dieu ne le font pas. Réponse. Oh, je vois. Il faut craindre Dieu pour ne pas l'offenser. Et qui dit qu'un simple mot m'offense, de toute façon? Finalement, ne trouves-tu pas intéressant qu'un mot que certains d'entre vous utilisez passionnément pour décrire une relation sexuelle agréable vous serve également de plus grande insulte? Est-ce que cela ne vous dit rien à propos de votre attitude envers la sexualité? Question. Je crois que tu confonds. Je ne pense pas que les gens utilisent ce terme pour décrire un moment sexuel splendide et véritablement amoureux. Réponse. Oh vraiment, as-tu visité des chambres à coucher dernièrement? Question. Non, et toi? Réponse. Je suis dans toutes, tout le temps. Eh bien, ça devrait tous nous mettre à l'aise. Réponse. Quoi? Veux-tu dire que tu fais des choses dans ta chambre à coucher que tu ne ferais pas devant Dieu? Question. La plupart des gens n'aiment pas être surveillés par qui que ce soit, encore moins Dieu. Réponse. Mais dans certaines cultures, aborigènes, polynésiennes, on fait l'amour plutôt ouvertement. Question. Eh bien, oui, la plupart des gens n'ont pas atteint ce niveau de liberté. En fait, ils considéreraient un tel comportement comme de la régression, un état primitif et païen. Réponse. Ces gens que tu appelles païens ont un énorme respect pour la vie. Ils ne connaissent pas le viol et le meurtre est presque inconnu dans leur société. Votre société cache le sexe, qui est une fonction humaine très naturelle et normale, puis se retourne et tue des gens ouvertement. Ça, c'est de l'obscénité. Vous avez fait du sexe une chose si sale, si honteuse, si taboue, que vous êtes gêné de vous y adonner. Question. Sottise. La plupart des gens ont tout simplement, à l'égard du sexe, un sens de la bienséance différent. Ils diraient même plus élevé. Ils le considèrent comme une interaction privée. Pour certains, c'est une part sacrée de la relation. Réponse. Le manque d'intimité n'équivaut pas à un manque de sainteté. Les rites les plus sacrés de la plus grande partie de l'humanité s'accomplissent en public. Ne confonds pas l'intimité avec la sainteté. La plupart de vos pires actions s'accomplissent en privé et votre meilleur comportement, vous l'exhibez en public. Ce n'est pas un argument en faveur du sexe en public. Je fais tout simplement remarquer que l'intimité n'égale pas nécessairement la sainteté et que le manque d'intimité ne vous la vole pas. Quant à la bienséance, ce seul mot et le concept comportemental qu'il dissimule ont davantage inhibé les plus grandes joies des hommes et des femmes que toute autre construction humaine, à l'exception de l'idée que Dieu punit, qui est le bouquet. Question. Selon toute apparence, tu ne crois pas à la bienséance. Réponse. Le problème, en ce qui concerne la bienséance, entre guillemets, c'est que quelqu'un doit établir les normes. Cela veut dire, automatiquement, que vos comportements sont limités, dirigés, dictés par l'idée que quelqu'un d'autre se fait de ce qui devrait apporter la joie. En matière de sexualité, comme pour tout le reste, cela peut être plus que limitatif. Cela peut être écrasant. Je ne conçois rien de plus triste qu'un homme ou une femme qui ont le sentiment qu'ils aimeraient faire l'expérience de certaines choses, puis qui se retiennent parce qu'ils ont l'impression que ce dont ils ont rêvé, ce sur quoi ils ont fantasmé, violerait les normes de la bienséance. Écoute, ce n'est pas une chose qu'ils ne feraient pas. Ce n'est qu'une chose qui viole la bienséance. Pas seulement en matière de sexualité, mais dans tous les aspects de la vie. Ne t'abstiens jamais, jamais, jamais de faire une chose uniquement parce qu'elle violerait les normes de bienséance de quelqu'un d'autre. Si j'avais un autocollant sur le pare-choc de mon auto, ce serait « transgresser la bienséance ». Je collerais certainement une telle affiche dans chaque chambre à coucher. Question. Mais notre conception du bien et du mal est ce qui assure l'unité de notre société. Comment cohabiter si nous n'avons aucun accord à ce propos? Réponse. La bienséance, entre guillemets, n'a rien à voir avec vos valeurs relatives de bien et de mal. Vous vous accordez peut-être tous sur le fait qu'il est mal de tuer un homme, Mais est-il mal de courir nu sous la pluie? Vous vous accordez peut-être tous sur le fait qu'il est mal de prendre la femme du voisin. Mais est-il mal de prendre sa propre femme ou de se faire prendre par sa femme d'une façon particulièrement délicieuse? La bienséance fait rarement référence à des limites juridiques, le plus souvent à des concepts plus simples de ce que l'on appelle approprié. Le comportement approprié ne correspond pas toujours à ce que tu appelles les meilleurs de tes intérêts. C'est rarement le comportement qui t'apporte la plus grande joie. Question. Pour revenir à la sexualité, tu dis alors que tout comportement est acceptable pour autant qu'il y ait un consentement mutuel entre tous ceux qui sont concernés et affectés. Réponse. Ne devrait-il pas en être ainsi de toute la vie? Question. Mais parfois, nous ne savons pas qui sera affecté ni comment. Réponse. Il faut que tu sois sensible à cela. Il faut que tu en sois profondément conscient. Lorsque tu ne sais pas vraiment, lorsque tu ne peux te faire une idée claire, tu dois pencher du côté de l'amour. La question essentielle de toute décision, c'est: que ferait l'amour à présent? L'amour de toi-même et l'amour de tous ceux qui sont affectés ou concernés. Si vous aimez une personne, vous ne ferez rien qui, selon vous, puisse la blesser. S'il y a une question ou un doute, vous attendrez de pouvoir clarifier la chose. Mais cela veut dire que d'autres peuvent te retenir en otage. Ils n'ont qu'à dire que telle ou telle chose les blesserait pour restreindre tes actions. Ton soi est le seul à pouvoir le faire. Ne voudrais-tu pas restreindre tes propres actions à celles qui ne blessent pas tes proches? Question. Et si, moi, j'ai l'impression de subir un tort en m'abstenant de faire quelque chose? Réponse. Alors, tu dois dire ta vérité à la personne que tu aimes, que tu te sentes blessé, frustré, réduit en ne faisant pas cette chose, que tu aimerais faire cette chose, que tu aimerais d'abord avoir l'accord de la personne que tu aimes. Tu dois te battre pour chercher un tel accord. Cherche un compromis, cherche une démarche dans laquelle chacun peut gagner. Question. Et si on ne peut pas? Réponse. Alors, je répéterai ce que j'ai déjà dit. Te trahir toi-même afin de ne pas trahir quelqu'un d'autre, cela reste une trahison. C'est la plus haute trahison. Votre Shakespeare l'a énoncé ainsi. Sois fidèle à toi-même, et il s'ensuivra comme la nuit suit le jour, que tu n'auras aucune duplicité envers qui que ce soit. Question. Mais celui qui fait toujours ce qu'il veut devient très égoïste. Je ne peux croire que tu approuves cela. Réponse. Tu prends pour acquis que l'homme fera toujours ce que tu appelles le choix égoïste. Je te dis ceci, l'homme est capable de faire le choix le plus élevé. Mais je te dis également ceci, le choix le plus élevé n'est pas toujours le choix qui semble servir quelqu'un d'autre. Question. Autrement dit, nous devons parfois passer en premier? Réponse. Oh, tu dois toujours passer en premier. Ensuite, selon ce que tu essaies de faire ou ce dont tu cherches à faire l'expérience, tu choisis. Lorsque ton but, le but de ta vie, est très élevé, le choix le sera également. Le fait de t'accorder la priorité, ce n'est pas ce que tu appelles de l'égoïsme, c'est la conscience de toi-même. Question. Tu jettes des bases assez larges pour la conduite des affaires humaines? Réponse. Ce n'est que par l'exercice de la liberté la plus grande que l'on atteint la croissance la plus grande, ou même qu'elle est possible. Si tu te contentes de suivre les règles de quelqu'un d'autre, alors tu ne grandis pas, tu obéis. Contrairement à ce que tu crois, l'obéissance n'est pas ce que j'attends de toi. L'obéissance n'est pas la croissance, et ce que je veux, c'est la croissance. Question. Et si nous ne croissons pas? Tu vas nous jeter en enfer, non? Réponse. Non, mais j'ai déjà parlé de cela dans le tome 1, et nous le ferons largement dans le tome 3. Question. D'accord. Alors, à l'intérieur de ces grands paramètres que tu viens d'exposer, je peux te poser quelques dernières questions à propos du sexe avant de fermer le sujet? Réponse. Vas-y. Question. Si le sexe est une part si merveilleuse de l'expérience humaine, pourquoi tant de maîtres spirituels prêchent-ils l'abstinence? Et pourquoi tant de maîtres étaient-ils apparemment chastes? Réponse. Pour la même raison qu'on a dit que la plupart d'entre eux vivaient simplement. Ceux qui évoluent vers un niveau élevé de compréhension harmonisent leurs désirs physiques avec leur esprit et leur âme. Vous êtes des êtres tripartites. Et la plupart des gens n'ont de même que l'expérience de leur corps. Ils oublient même que l'esprit décline après l'âge de 30 ans. Personne ne lit plus. Personne n'écrit. Personne n'enseigne. Personne n'apprend. L'esprit tombe dans l'oubli. Il n'est pas nourri. Il ne s'élargit pas. Il n'y entre rien de nouveau. Il en sort le minimum exigé. On ne nourrit pas l'esprit. On ne l'éveille pas. Il est endormi, émoussé. Vous faites tout ce que vous pouvez pour l'écarter. Par la télévision, les films, les romans de gare. Peu importe ce que vous faites. Vous ne pensez pas, ne pensez pas, ne pensez pas. Ainsi, la plupart des gens vivent à un niveau corporel. Vous nourrissez le corps, habillez le corps, donnez des choses au corps. La plupart des gens n'ont pas lu un bon livre, je veux dire un livre dans lequel ils peuvent apprendre quelque chose depuis des années. Mais ils peuvent te raconter tout l'horaire de la télévision de la semaine. Il y a là quelque chose d'extraordinairement triste. En vérité, la plupart des gens ne veulent pas avoir à penser. Ils élisent des leaders, appuient les gouvernements, adoptent des religions qui n'exigent aucune pensée indépendante. Facilitez-moi les choses, dites-moi quoi faire. C'est ce que veulent la plupart des gens. Où est-ce que je m'assois? Quand est-ce que je me lève? Comment est-ce que je salue? Quand est-ce que je paie? Que voulez-vous que je fasse? Quelles sont les règles? Où sont mes frontières? Dites-moi, 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 je le ferai, dites-le-moi à quelqu'un. Puis, ils se sentent dégoûtés, désillusionnés. Ils ont suivi toutes les règles, ils ont fait ce qu'on leur avait dit. Qu'est-ce qui a cloché? Quand est-ce que ça a mal tourné? Quand est-ce que ça s'est écroulé? Ça s'est écroulé à l'instant où vous avez abandonné votre esprit, qui est le plus grand outil de création que vous ayez jamais eu. Il est temps de vous réconcilier avec votre esprit. Soyez-en le compagnon. Il s'est senti si seul. Nourrissez-le. Il s'est senti si affamé. Certains d'entre vous, une petite minorité, avaient compris que vous avez un corps et un esprit. Vous avez bien traité votre esprit. Cependant, peu d'entre vous qui respectent votre esprit et les choses de l'esprit avaient appris à utiliser l'esprit à plus d'un dixième de sa capacité. Si vous saviez de quoi est capable votre esprit, vous ne cesseriez jamais de prendre part à ses merveilles et à ses pouvoirs. Et si vous pensez que peu d'entre vous balancez votre vie entre votre corps et votre esprit, ceux qui se voient comme des êtres en trois parties, corps, esprit et âme, sont rarissimes. Mais vous êtes des êtres tripartites. Vous êtes plus que votre corps et plus qu'un corps avec un esprit. Est-ce que vous nourrissez votre âme? Est-ce que vous la remarquez seulement? La guérissez-vous ou la blessez-vous? Êtes-vous en croissance ou en déclin? Êtes-vous en expansion ou en contraction? Votre âme est-elle aussi seule que votre esprit? Est-elle même encore plus négligée? Et quand est-ce que vous avez senti votre âme s'exprimer pour la dernière fois? Quand est-ce que vous avez crié de joie la dernière fois? Écrit de la poésie? Jouer de la musique? Danser sous la pluie? Faire cuire une tarte? Peint quoi que ce soit? Réparer quelque chose de brisé, embrasser un enfant, tenu un chat devant votre visage, grimper une colline, nager nu, marcher au coucher du soleil, jouer de l'harmonica, parler jusqu'à l'aube, faire l'amour pendant des heures, sur une plage, dans les bois, communier avec la nature, chercher Dieu. Quand, la dernière fois, vous êtes-vous assis dans le silence, pour atteindre les régions les plus profondes de votre être? Quand était-ce la dernière fois que vous avez dit bonjour à votre âme? Quand vous vivez comme un être à facettes uniques, vous vous embourbez profondément dans les questions corporelles. Argent, sexe, pouvoir, bien, stimulation et satisfaction physique, sécurité, renommée, gains financiers. Lorsque vous vivez comme une créature à deux facettes, vous élargissez vos préoccupations pour inclure des questions d'esprit. Compagnonnage, créativité, stimulation de nouvelles pensées, de nouvelles idées, création de nouveaux buts, de nouveaux défis, croissance personnelle. Lorsque vous vivez comme un être en trois parties, vous atteignez enfin l'équilibre en vous-même. Vos préoccupations incluent les questions de l'âme, l'identité spirituelle, le dessein de la vie, la relation avec Dieu, la voie de l'évolution, la croissance spirituelle, la destinée ultime. À mesure que vous évoluez vers des états de conscience de plus en plus élevés, vous portez à sa pleine réalisation chaque aspect de votre être. Mais l'évolution ne veut pas dire laisser tomber certains aspects du soi au profit d'autres. Elle veut tout simplement dire élargir le point de mire, se détourner d'un engagement presque exclusif dans un aspect et tendre vers l'amour véritable et l'appréciation de tous les aspects.